Alors, premier sujet ce matin, Paris, la France, l'affrontement du week-end entre d'un côté des gilets jaunes infiltrés par des casseurs et des policiers qui sont rendus épuisés.
Ouais, au-delà des scènes de casse, pourquoi ces gens-là manifestent? C'est sûr qu'il y a peut-être des infiltrations dans toutes les manifs de des infiltrations. On l'a vu à Montréal, tu as des éléments plus extrémistes qui vont en profiter pour aller péter des vitres, puis c'est dans la dynamique normale d'une manif. Pourquoi ces gens-là manifestent? Pourquoi il y a manifeste? Pourquoi il y a 1 million de signatures en un mois et demi pour cette pétition-là qui commence par une demande bien simple pour une baisse des prix du carburant à la pompe? Bien, la personne que tu as interviewée ce matin, d'autres gens qui ont témoigné, l'explique. Les gens, il y a bien des gens en France qui n'arrivent plus, qui sentent qu'ils ont de la misère à joindre les deux bouts. Et là, c'est la goutte qui fait déborder le bidon d'essence, là, sans mauvais jeu de mots. Il y a une surtaxe au carbone qui fait que là, les gens se disent « OK, c'est assez ». Et c'est vrai qu'ils ont ils ont toutes sortes de récriminations, toutes sortes de demandes un peu loufoques des fois. Mais sur le fond des choses, ça touche à des enjeux importants, une sorte de perte de contrôle économique. C'est pas tout le monde qui a joui de la croissance de l'économie dans les 10, 20, 30 dernières années.
Au Moyen Âge, il y avait une expression qui disait « taillable et corvéable à merci ». Taillable, c'était l'impôt. Corvéable, c'était les corvées. À merci, c'est à l'époque où il y avait des serfs et il y avait des seigneurs. Et les seigneurs pouvaient décider le nombre de jours que les serfs travaillaient sans aucune rémunération. C'est ça que ça voulait dire, taillable et corvéable à merci. Puis c'est ce sentiment-là qui est exprimé par la majorité des Français qu'on voit en entrevue. Et ça, ce sentiment-là, de la part des Français, c'est toujours annonciateur d'une vague qui, généralement, est plus dépasse la France. On l'a vu avec mai 68, ça, les gens s'en souviennent. Ça a été le début d'un... En tout cas, ça a été un moment très fort dans une espèce de révolution planétaire, je dirais, d'une génération. Et il y a eu, évidemment, la Révolution française qui est un peu les fondements de l'État. Ce qui est touché actuellement, c'est pas une révolution, c'est pas mai 68, mais c'est les caractéristiques semblables, c'est-à-dire un chaos social qui frôle l'anarchie. Parce qu'il n'y a plus de porte-parole, il n'y a pas de syndicat, il n'y a pas de parti, il n'y a pas d'encadrement. Évidemment, on sait, il y a des groupuscules qui envahissent, qui phagocytent tout ce mouvement-là. Mais on sent bien que ça ne s'éteindra pas aisément et parce que ça a une ampleur toujours surprenante. Les Français sortent, comme le disait Fabrice, ils sont toujours en train de râler, ils font des manifs, mais il y a une tradition qui vient de loin. Une tradition de révolte populaire. Mmh. Et moi, je pense que quand je regarde ça, je me dis, ouf, c'est ça auquel la France est confrontée. Et c'est pas toute la France qui est confrontée, c'est beaucoup les élites. C'est beaucoup, tu sais, quand ils vont à l'opéra, oui. Quand ils détruisent quand ils attaquent, je sais bien que c'est des casseurs, mais en même temps, c'est des symboles, des banques qui sont attaquées. Il y a des symboles là-dedans.
Mais partout, en France, comme un peu partout ailleurs en Occident, ce qu'on a vu dans les dernières décennies, c'est quoi? C'est des gens qui travaillent plus, des gens qui travaillent plus fort et qui ne récoltent pas les fruits d'une croissance économique exponentielle. Faut le dire, on vit non seulement dans certaines des régions les plus riches de l'histoire de l'humanité, le Canada. On a beau penser là, qu'on n'est pas riche, c'est un des pays les plus riches de l'histoire de l'humanité, à côté du pays le plus riche de l'histoire de l'humanité, qui n'est pas capable de s'occuper de ses pauvres. Je parle des États-Unis. On n'a même plus cette volonté-là. On l'a vu avec Trump. C'est une forme de gilet jaune, Trump. T'sais, on se comprend, là. Il y a eu ce ressac-là. Oui, il y avait une sorte de ressentiment racial, mais il y a beaucoup de gens qui ont voté pour Trump qui venaient de régions où, quand l'usine a fermé, il ne s'est rien passé. Les gens sont juste tombés dans les médicaments puis dans la drogue. Quand tu ne t'occupes pas des gens, quand tu ne t'occupes pas du bien-être économique des gens, il y a des conséquences. Et là, on est en train de le voir. Et ce qu'on voit aussi en France, c'est on n'imagine pas à quel point la société française est d'une part sclérosée, mais aussi cadenassée. Pourquoi vous pensez qu'il y a autant de Français à Montréal, au Québec, au Canada? Mm. Parce que quand t'as pas le bon diplôme, quand t'es pas de la bonne famille, quand t'es pas allé en stage à la bonne place, tu vas pas avoir des bonnes perspectives économiques. Les Français s'en vont, les jeunes Français s'en vont. Tant mieux pour nous, parce que ça apporte des forces vives à notre société, mais il y a quand même quelque chose de cadenassé là-bas. Et, en revanche, tu sais pas, là, quand t'es membre d'une certaine classe politique française, c'est comme être membre de d'une certaine aristocratie. Je veux dire, on a vu là-bas des gens qui étaient chargés de la lutte à l'évasion fiscale, qui faisaient de l'évasion fiscale. Mais tu vois tout ça pendant que t'as 800 euros par mois, mais t'as peut-être envie d'aller péter des vitrines.
Non, mais Fabrice aussi illustrait assez bien ce matin l'écart entre la capitale et le reste de la France.
Oui.
Parce que puis j'ai des Français qui vivent au Québec maintenant, qui ont bon des amis, de la famille là-bas. Puis la taxe sur le carbone, là, au-delà de la valeur verte, là, c'est une taxe imposée par les bourgeois à des producteurs agricoles, à des gens qui n'ont pas les moyens de changer de voiture. Ils l'ont sur la gueule, ils sont pas contre les plans verts, là, mais ils ont l'impression d'en faire les frais.
Oui, ils sont pas anti-écologiques parce qu'ils sont juste plus capables
de payer.
Payer. Puis tu sais, il y a une statistique qui sort à chaque année là qui dit, bon, là maintenant, vous commencez à travailler pour vous. Ça arrive généralement pour la moyenne des ours dont on fait partie quelque part en juin. C'est-à-dire qu'après avoir travaillé 6 mois pour payer tes impôts, tes taxes, puis tout, là, après 6 mois, tu commences. Puis j'ai le sentiment, là, puis alors qu'il y en a que c'est à 10:30, tu sais, qui commencent à travailler pour eux. Ceux-là, là, c'est une extrême minorité. Puis le sentiment qui se dégage, c'est pour la majorité des Français, ben là, tu vas travailler toute l'année, puis même au bout de l'année, tu commenceras pas à travailler pour toi-même. Un sentiment d'être opprimé. La grande question qui se pose, c'est comment comment des pouvoirs vont répondre à ça? Parce que ils ont beau dire qu'ils vont faire venir, tu sais, les autres partis politiques et des gens, des représentants des Gilets jaunes. Ces représentants-là, ils représentent eux-mêmes, puis ils sont pas souvent, les autres ne les reconnaissent pas comme étant leur chef. Donc, il n'y a pas de dialogue facile ou aisé à entrevoir. Il reste quoi? Il reste la répression ou ben donc un recul. Puis le recul, il faudrait qu'il soit drôlement important de la part du gouvernement français pour que ça change quelque chose.
Puis je veux revenir sur la question des taxes, parce que tout ça part de gens qui se disent pris à la gorge, tout ça part de gens qui lancent une pétition pour une baisse des prix du carburant. Moi, je l'ai dit ici souvent, je l'ai dit dans la presse. Tu sais, j'ai cité un vieux juge américain qui disait « Moi, j'ai rien contre les taxes, ça m'achète de la civilisation. » Pourquoi? Ça veut dire que t'achètes des services publics, t'achètes des services de santé, t'achètes une école qui a généralement du bon sens. Si t'es obligé de payer tout ça au privé, ça fait des sociétés inégalitaires où il y a toujours des tensions. Ceci étant dit, je reviens à productivité. Si les travailleurs, les gens qui créent cette croissance économique-là, qui créent cette productivité-là, ne touchent qu'un infime pourcentage des gains de croissance, c'est sûr qu'ils vont se fâcher. C'est sûr que les taxes deviennent trop élevées à leurs yeux.
Le plus bel exemple, puis on le voit, là, prend des gens qui ont un revenu de retraite, qui plafonne, qui régresse, ou en tout cas qui augmente pas vite, là, puis qui voient le compte de taxes municipales augmenter, puis qui se font répondre, oui, mais votre maison a pris de la valeur, mais je vis dedans. Oui. Et si t'as une maison, puis que t'es plus capable de faire face à l'électricité, aux taxes, tu vas faire quoi? Tu vas vendre ta maison pour laquelle t'as travaillé toute ta vie?
Si la branche sur laquelle t'es assis.
Puis les producteurs agricoles, c'est la même maudite affaire.
Exact. Donc, ici, le problème, tel que je le vois là en France, c'est sûr qu'en France, on a parmi les taxes les plus élevées en Occident. C'est vrai. Et ce que l'État répond, c'est oui, mais vous avez aussi un des États qui donne le plus de services. Mais ça revient à ce que tu dis là. Ben oui, OK, j'attendrai pas pour aller à l'hôpital, mais avoir une éducation de calibre mondial, mais je suis obligé de rationner mes repas à 2 par jour pour arriver. T'es-tu plus avancé? Non, ça passe par une croissance de revenus aussi.
C'est pas juste à Paris, tu sais, tu disais. Ce qu'on a vu, c'est les images d'une extrême violence de Paris, mais c'est vrai à Toulouse, c'est vrai un peu partout dans la France. C'est pas un mouvement qui a l'air de vouloir s'apaiser ou s'éteindre.
On va s'arrêter là-dessus. Au retour, on va parler de ce mariage au centre-ville chez les Hells Angels. Cérémonie quand même intéressante. Le pont Champlain.